Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Clément Salzar, mais aussi Samuel Bernard, Camille Imbert et Anne-Sophie Pierry. À la réalisation, Alexandre Fougeron. À la technique, Anthony Thomasson. Quatrième et dernier volet de notre semaine consacrée au repositionnement de la France sur un échiquier international largement bouleversé ces dernières années. Ce matin, nous nous intéressons à la relation souvent très ambiguë entre la France et le continent africain. Entre interventionnisme et fin de la Centrafrique, quel bilan pour Hollande l'Africain ? C'est notre sujet ce matin.
Il y a 4 ans, presque jour pour jour, les forces maliennes, françaises, africaines était engagé pour reconquérir le Nord Mali, mais la ville de Bamako était sous la menace d'une offensive terroriste de grande ampleur. Le peuple malien tremblait. Les Africains partageaient cette inquiétude. Et l'Europe pouvait regarder parfois avec distance ce qui se passait au Mali, ne saisissant pas immédiatement l'enjeu. Je veux affirmer ici que la France restera toujours aux côtés du Mali. Toujours.
Les mots de François Hollande en guise d'adieu au continent africain. Le président français s'exprimait lors du sommet Afrique-France à Bamako en janvier dernier. Un sommet au cours duquel ses homologues africains n'ont pas tari d'éloges à son égard, notamment le président malien Boubacar Keïta, tandis que l'opération française Barkhane continue de traquer les groupes djihadistes dans le Sahel. En 2012, le candidat Hollande avouait sans complexe qu'il connaissait très mal l'Afrique. Le continent aura pourtant occupé une place de premier plan dans son quinquennat. Les interventions au Mali et en Centrafrique lui ont offert une stature inespérée de chef de guerre. Et la relance de la diplomatie économique de la France est largement passée par le continent africain. François Hollande, qui avait fait campagne sur la fin de la France-Afrique et des complicités opaques avec les autocrates africains. Sauf qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, la France n'a jamais été aussi proche du très autoritaire président du Tchad, Idriss Déby, au pouvoir depuis 27 ans. Paris n'a pas non plus élevé la voix lors des réélections contestées de Denis Sassou Nguesso au Congo ou Paul Biya au Cameroun. Alors le président Hollande a-t-il été rattrapé par la Realpolitik malgré sa volonté de rompre avec la politique africaine de ses prédécesseurs ? La normalisation des relations entre la France et l'Afrique n'a-t-elle finalement pas eu lieu ? Qu'est-ce que l'engagement militaire français au Mali puis en Centrafrique a changé dans les rapports entre l'ancienne puissance coloniale et le continent africain ? Près de 3 ans après le lancement de l'opération Barkhane, les pays africains applaudissent-ils toujours l'intervention française ? Avec nous pour en parler, 2 invités autour de cette table. D'abord Aline Leboeuf, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheuse à l'IFRI et vous avez rédigé avec Hélène Quénaud-Suarez une note intitulée « La politique africaine de la France sous François Hollande, renouvellement et impensée stratégique en 2014 ». À vos côtés, Christophe Boisbouvier, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être là. Vous êtes journaliste à RFI, responsable de l'émission « L'invité Afrique » et auteur de ce livre que j'ai sous les yeux, « Hollande l'Africain ». La découverte, c'était paru à La Découverte en 2015. On a vu ces derniers jours François Hollande multiplier les rencontres avec des chefs d'État africains. Quelques semaines avant la fin de son mandat, il a reçu le président guinéen Alpha Condé, son homologue mauritanien ainsi que le président nigérien Issoufou. Et demain, c'est le burkinabé Roch Kabore qui sera reçu à l'Élysée. Le dossier essentiel, c'est bien sûr l'opération Barkhane lancée en août 2014. Opération qui court aujourd'hui le risque d'un certain enlisement, Aline Leboeuf.
Le problème en fait c'est que c'est une mission très ambitieuse sur 5 pays différents, donc la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, et donc qui est très limité en termes de moyens, donc c'est uniquement 4000 hommes. Donc aujourd'hui en fait ils ont 2 missions surtout, à la fois vous l'avez dit en fait traquer les terroristes, mais aussi renforcer les armées africaines. Donc il y a des opérations qui sont conduites en multilatéral avec plusieurs armées aux frontières de ces pays qui sont soutenues par les Français. Mais le problème aujourd'hui, c'est que si la situation se dégrade davantage, il n'est pas évident que la France sera capable de gérer la situation.
Sécuriser un territoire qui est grand comme 6 fois la France, Christophe Boisbouvier, c'est un petit peu mission impossible pour 4000 hommes engagés sur le terrain?
Au début, en 2013, on s'est dit, bon, cette progression des djihadistes, ils fonçaient sur Mopti, ils pouvaient éventuellement foncer aussi sur Bamako, c'est circonstanciel, c'est lié à la chute de Kadhafi et à l'arrivée des armes de Libye, des combattants aussi qui avaient combattu du temps de Kadhafi et qui revenaient au Nord-Mali. Donc on s'est dit, si Serval intervient et donne un coup de poing, ça peut mettre fin au problème. En fait, non, on s'aperçoit 4 ans plus tard que c'est beaucoup plus compliqué que cela, que vous avez peut-être sans doute sous l'influence des wahhabites venus du Golfe, d'Arabie Saoudite, vous avez une radicalisation d'une partie de la société de ces pays, notamment Mali, Niger, et puis une paupérisation due au boom démographique, due à l'incurie, due à la corruption, qui fait qu'un certain nombre de jeunes adhèrent à ces thèses radicales et viennent servir de combattants, d'enfants soldats pour ces djihadistes, et qu'en fait vous avez une avancée des djihadistes maintenant dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, au sein même de la communauté Peul, qui ne s'était pas vue à l'époque, et qui fait qu'en effet on peut parler d'enlisement et qu'on ne sait pas quand cette force française va partir. On est en train de se demander si elle n'est pas là pour 10 ans ou pour 20 ans.
Oui, l'opération Barkhane était jusqu'ici déployée dans le nord du pays, et là on voit qu'elle vient désormais du centre du Mali et qu'elle est même en train de déborder au Niger et au Burkina Faso.
Absolument, vous avez maintenant des instituteurs, des chefs de village du nord du Burkina Faso qui sont assassinés par des djihadistes venus du nord Mali. Pour un peu comme ce qu'a fait Boko Haram dans le nord-est du Nigeria il y a quelques années, pour semer la terreur dans cette région.
Vous l'avez dit, Aline Leboeuf, l'objectif pour l'armée française, ce n'est pas de vaincre les groupes armés terroristes, mais peut-être de les affaiblir suffisamment pour que les armées du G5 Sahel soient ensuite en mesure de détruire cette menace. Pour cela, il faut mettre en place une force d'intervention commune, mais à l'heure actuelle, malgré des entraînements, des patrouilles conjointes, des opérations conjointes également, cette force est loin d'être opérationnelle. Aline Leboeuf.
Il faut se souvenir déjà qu'il y a une force qui existe, c'est celle des Nations Unies qui est déployée au Mali. Et aujourd'hui, en fait, cet effort pour faire une mission qui soit celle du G5, donc des 5 pays que j'ai cités tout à l'heure, elle est en train d'être mise en œuvre, mais ça va prendre du temps. Parce que les armées n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, elles n'ont pas les mêmes procédures, il faut aussi qu'il y ait une volonté politique très forte qui soutienne ces actions.
Le simple fait de les faire travailler ensemble, Christophe Boisbouvier, c'est déjà une grande avancée. En ce moment même, il y a une opération militaire qui est en cours au Mali, à la frontière avec le Burkina Faso, et c'est une opération qui mobilise des soldats burkinabés et maliens, appuyés donc par des soldats français de l'opération Barkhane.
Oui, mais ce sont des États dont les budgets sont très limités, et s'ils doivent consacrer 15 à 20% de leur maigre budget à la défense, qu'est-ce qui va rester pour le développement? Donc il va falloir vraiment, je pense, que ce G5 Sahel, ils deviennent opérationnels, avec notamment les Mauritaniens qui abritent le siège de cette organisation et qui ont, je crois, une pratique militaire assez éprouvée. Les Nigériens aussi, mais il va falloir peut-être aussi que le Mali redevienne ce qu'il a été avant le président ATT, c'est-à-dire un véritable État. C'est-à-dire que aujourd'hui, au Niger, quand vous avez une garnison qui détale devant des djihadistes, des assaillants djihadistes, les soldats sont radicalisés et puni. Au Mali, les mêmes soldats qui détalent, qui désertent leur poste, eh bien, il n'y a pas de sanctions.
Au sein de l'armée française, il se dit que la France est partie pour rester 5, 10, 15 ans dans le Sahel. Donc, c'est l'un des principaux dossiers en politique étrangère qui attend le futur président. Comment se positionnent les principaux candidats sur ce sujet, Christophe Boisbouvier?
Alors, tous sont d'accord pour maintenir la présence française au Sahel, que ce soit Marine Le Pen qui a été reçue par Idriss Déby, c'était il y a 2 semaines.
Le président du Tchad.
C'était la première fois qu'elle était reçue par un chef d'État africain. François Fillon, qui dit qu'il approuve, il dit beaucoup de mal de François Hollande, sauf là-dessus. Que ce soit Emmanuel Macron, Benoît Hamon sont tous d'accord. Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il est moins clair sur la question, mais je crois qu'il est d'accord pour intervenir sous la bannière des Nations Unies. Et c'est le cas, puisque aujourd'hui les Français, l'opération Barkhane est liée à l'opération dont parlait Aline Leboeuf à l'instant, c'est-à-dire la MINUSMA. Donc sur ce point-là, il y a continuité. La différence entre les différents acteurs, entre les différents candidats actuels de la présidentielle française, elle porte plus sur un autre point de l'actualité africaine, c'est la question des flux migratoires, la question notamment des migrants qui viennent pour beaucoup d'Afrique de l'Ouest et du Sahel.
Pour François Hollande, l'enjeu aujourd'hui, c'est l'héritage qu'il laisse derrière lui. Le président veut prouver aux observateurs qu'il laisse un Sahel plus sécurisé qu'il y a 4 ans. Et l'un des objectifs, c'est de convaincre l'Allemagne de s'aligner sur la position française afin de partager les efforts, Aline Leboeuf.
Oui, et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment réussi, en fait. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 2007, lorsque l'Union européenne est intervenue au Tchad et en hors de la RCA, ça avait créé de très grandes tensions au sein de l'Union européenne. Et l'Allemagne avait critiqué très vivement la France parce qu'elle avait l'impression que la France utilisait l'Union européenne pour défendre la France-Afrique. Mais aujourd'hui, en fait, ces perceptions-là, elles ont plus ou moins disparu. Et donc l'Allemagne commence à comprendre en fait, qu'elle a aussi des intérêts au Sahel et qu'elle doit soutenir l'action de l'Union européenne et de la France dans cette région.
L'autre grande intervention du quinquennat sur le continent, c'est l'opération Sangaris en Centrafrique. Entre décembre 2013 et octobre 2016, jusqu'à 2500 soldats français s'interposeront entre les deux camps, les rebelles de la Seleka d'un côté et les milices anti-Balaka de l'autre. Aujourd'hui, les affrontements entre factions rivales continuent et les miliciens de l'ex-rébellion Seleka contrôlent toujours l'est et le nord du pays. Malgré l'élection d'un président, Faustin Archange Touadéra, il y a tout juste un an, le pays semble toujours aussi instable, Christophe Boisbouvier.
Oui, on peut dire que par Sangaris, les Français ont évité le pire, c'est-à-dire des massacres à caractère religieux qui auraient pu se répandre partout dans la capitale Bangui fin 2013, début 2014. Mais le fond du problème, vous l'avez dit, n'est pas résolu, c'est-à-dire que vous avez toujours actuellement en République centrafricaine une partition de fait entre le sud qui est tenu par les forces gouvernementales et le nord-est qui est tenu par ce qu'on appelle les anciennes milices Seleka, qui s'appuient notamment sur des complices côté Tchad et Soudan.
Aline Leboeuf, on a encore une grande instabilité en Centrafrique.
Oui, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que les Français ont essayé de faire de leur opération une sorte de bridging operation, une opération pont entre pour stabiliser la situation et permettre aux Nations Unies de se déployer. Mais aujourd'hui, en fait, on est dans une situation où les missions des Nations Unies s'avèrent incapables ou insuffisamment capables, en fait, de stabiliser les pays et ont toujours besoin d'être soutenues et mises en œuvre de façon optimalisée.
Là encore, il y a la question de l'armée, puisque pour venir à bout des rebelles, le régime Touadéra ne peut compter que sur les forces armées centrafricaines, les FACA, qui n'existent pour le moment que sur le papier. Une formation militaire de l'armée nationale est assurée par l'Union européenne. D'ici à la fin de 2017, 2 bataillons doivent être formés, dont le premier en mai. Mais il faudra des années avant que la Centrafrique dispose vraiment de forces de défense dignes de ce nom, Christophe Boisbouvier.
Oui, et puis surtout, il faut arrêter la formation de militaires sur une base ethnique, comme l'a vécu la République centrafricaine depuis les années Bokassa. Il faut sortir de la logique ethnique et créer une armée qui soit à la fois multiethnique et multireligieuse, où musulmans et chrétiens acceptent de combattre ensemble, de devenir des compagnons d'armes dans une armée véritablement nationale. Et pour l'instant, ça ne marche pas.
Mmh. Aline Leboeuf. Juste, en fait, il faut aussi, vous parliez d'enlisement, mais il faut aussi comprendre que quand on veut rétablir la paix dans un pays, ça prend du temps. En Sierra Leone, les Britanniques sont intervenus en mai 2000, ils sont toujours une action de coopération militaire aujourd'hui. Donc oui, la question c'est, est-ce qu'on veut vraiment stabiliser ces pays? Et si oui, ça veut dire faire des actions de développement, ce qui se fait pas du jour au lendemain en fait. C'est des actions qui mettent des fois 2 ans à être mises en place. Il faut dégager des budgets, et ça prend du temps aussi. Et il faut reconstruire l'État qui a été failli ou qui a été détruit. Et ça prend du temps. Pour reconstruire une armée, oui, il faut 10-15 ans. Parfois même une génération, surtout quand c'est des armées qui ont été massivement utilisées au profit de l'État et qui donc sont composées d'une ennemie, comme le disait M. Boisbouvier.
Sur la question du développement, justement, certains chercheurs ou hommes politiques estiment que cette dimension a été largement négligée par François Hollande dans son approche du continent africain. C'est aussi votre avis, Christophe Boisbouvier, parmi les candidats, ça sera ma deuxième question, quels sont les programmes les plus ambitieux en termes d'aide au développement ?
Alors c'est vrai qu'avec François Hollande, l'aide publique au développement n'a cessé de baisser jusqu'à la fin de l'année dernière. Pour la première fois depuis le début de son quinquennat, dans le budget voté fin 2016 pour 2017, il y a eu un rebond, mais il est venu bien tard et de fait toutes les ONG s'en sont plaintes ces dernières années. C'est vrai aussi qu'il y a une volonté chez François Hollande de reconquérir toutes les parts de marché que la France a perdues depuis les années 2000, en fait. La moitié des parts de marché de la France ont été perdues. Et alors aujourd'hui, tous les candidats vous disent qu'ils sont prêts à aider. Certains candidats vous parlent d'un plan Marshall pour l'Afrique. Ils sont prêts à faire un gros effort pour l'aide à la coopération, etc. Mais alors là où il y a une différence entre les candidats, c'est dans les conditions qui sont mises à cette aide. Vous avez chez Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon la volonté de ne pas conditionner cette aide, hein, vraiment de soutenir les pays qui en ont besoin. Vous avez en revanche chez Emmanuel Macron, François Fillon et a fortiori Marine Le Pen, la volonté de conditionner cette aide au retour des migrants sans papier qui viennent de ces pays-là.
Est-ce que ça a déjà fait l'objet de discussions, Aline Leboeuf?
Non, juste un point. En fait, je voulais dire que 2017, c'est aussi la première année où 100 millions d'euros ont été dédiés à la stabilité dans les pays en fragile et en crise pour le développement. Et ça, c'est une vraie nouveauté, en fait. C'est une façon d'amener les acteurs du développement français à travailler dans les pays en crise de façon plus systématique.
Sur cette question du retour des migrants sans papier, comment se situe aujourd'hui le gouvernement malien? Qu'est-ce qu'on sait des discussions qui ont pu être abordées déjà par François Hollande?
Ah, c'est un sujet hyper sensible à Bamako. Vous avez eu un sommet à Malte il y a un an et demi entre l'Europe et l'Afrique sur cette question. Le principe d'accord de réadmission, c'est-à-dire de l'acceptation par les pays de départ comme le Mali, du retour chez eux des sans-papiers déboutés de leurs droits en Europe a été acté lors de ce sommet. De nouvelles discussions ont eu lieu à la fin 2016, début 2017. Un protocole d'accord a même été signé entre Bruxelles et Bamako, et aussitôt que ce protocole d'accord a été rendu public, levée de bouclier dans toute la classe politique malienne et le président Ibeka a dû reculer.
Je le disais en introduction, à son arrivée à l'Élysée, le président ne connaissait presque rien de l'Afrique, où il n'était quasiment jamais allé, mais il avait tout de même pris un engagement pendant sa campagne, en finir avec la France-Afrique, les intermédiaires, les réseaux. Désormais, les relations avec le continent, a-t-il annoncé, se doivent d'être basées sur l'égalité, la transparence et la solidarité. Et dans un premier temps, c'est ce qu'il se passe, Aline Leboeuf. François Hollande affiche en effet une certaine fermeté avec les dirigeants autocrates du continent.
Oui, en fait, lorsqu'il y a eu le sommet de la francophonie en République démocratique du Congo, en fait, peu après son élection, il a refusé de serrer la main au président Kabila, en fait, pour marquer son point de vue critique vis-à-vis de ce président. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'opération Serval au Mali, puis l'opération Sangaris en RCA, il a été obligé de renouer avec un certain nombre d'acteurs africains, en fait, pour réussir à faire la paix dans ces pays et pour construire des coalitions, en fait, ad hoc, permettant de rétablir la paix. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, où les logiques de partenariat se mettent en place, forcément ça a des incidences parce que on ne peut pas parler à ses alliés de la même façon qu'on pourrait critiquer, en fait, un pays avec lequel on n'a aucun lien.
Effectivement, en janvier 2013, donc François Hollande engage l'armée française dans le nord du Mali, contrôlée par les djihadistes qui menacent de descendre sur Bamako. C'est le début de l'opération Serval. Comment expliquez-vous cette décision de François Hollande prise très rapidement d'intervenir au Sahel? C'était, je crois, 7 mois après sa prise de fonction, Christophe Boisbouvier.
Et oui, et qui paraissait en contradiction avec l'engagement du candidat qui disait « je rappellerai les troupes d'Afghanistan si je suis élu », etc. Donc il a vraiment surpris ses partenaires et même ses compatriotes. C'est une décision qu'il a prise dans l'urgence. Ça pas mal cafouillé dans les 48 heures qui ont précédé la décision. Le cabinet, la cellule Afrique de l'Élysée était plutôt contre. Le ministère de la Défense et Jean-Yves Le Drian étaient pour. Laurent Fabius poussait aussi. Il était plus pour une intervention aérienne, hélicoptère-avion, qu'une intervention au sol, mais il poussait quand même. Benoît Puga, le chef d'état-major particulier, assez courtisan sur ce coup-là. Il sentait que François Hollande était plutôt contre, donc il disait il faut pas y aller, Monsieur le Président. Puis quand il a senti que François Hollande allait bouger, il a bougé à son tour. Bon, il y a eu un peu de cafouillage. Finalement, je pense que François Hollande a pris une décision. Il y a eu de l'émotion. Diokoundé Traoré, qui était le président du Mali à l'époque, l'a appelé en lui disant si vous n'intervenez pas d'ici demain, je ne serai plus là. Je serai tué par les soldats qui sont autour de moi. Ça a joué, hein. Il y a des fois où les rapports humains, ça compte.
D'autant qu'ils se connaissaient déjà avec le président.
Bien sûr. Vous savez, les rapports humains, ça compte dans les relations franco-africaines. C'est un paramètre. On a beau dire que la France-Afrique, c'est fini, mais voilà, il y a du charnel, hein. Et voilà, je pense que c'est dans l'urgence, quand il a vu que Mopti et, qui sait, Bamako, 2 millions d'habitants, dont 3 000 personnes de nationalité française pouvaient tomber aux mains des djihadistes, c'est là qu'il s'est dit, bon, on y va, quoi.
En trois semaines, l'avance des djihadistes vers le sud est stoppée par l'armée française et plusieurs villes sont libérées. Dans la ville de Tombouctou, qui vient d'être délivrée de la férule des islamistes, la foule est en liesse. Et l'arrivée de François Hollande, qui prononce ce 2 février un discours empli d'émotions.
Moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Parce que, à un moment, une décision doit être prise. Elle est grave. Elle engage la vie d'hommes et de femmes. Cette décision, je l'ai prise au nom de la France. Cette décision, elle honore la France. Et à travers les clameurs, la ferveur, le soutien que vous m'apportez, c'est à toute la France que vous donnez votre plus grand hommage. Merci, peuple malien. Vive le Mali. Vive la France. Vive l'amitié entre le Mali et la France.
La journée la plus importante de ma vie politique, dit François Hollande, qui érige alors la question sécuritaire au rang des priorités. La phrase est restée, Aline Leboeuf.
Oui, en même temps, elle montre aussi finalement le courage de ce président qui a eu qui est intervenu là où personne n'était prêt à intervenir, en fait. Donc on a pu critiquer cette intervention et je l'ai fait aussi parce que elle était avant tout militaire et les volets diplomatiques et développement étaient peut-être pas assez solides, assez consolidés. Mais finalement, avec le recul, en fait, on peut se dire que finalement c'est certainement une des meilleures décisions qu'il a prises en termes de politique étrangère pendant son mandat.
Mais effectivement, comme vous l'avez indiqué, la contrepartie, c'est de se montrer un petit peu moins regardant sur les abus autoritaires de ses interlocuteurs africains, à commencer par le président tchadien Idriss Déby, dont il a besoin dans le cadre de l'opération Barkhane. Christophe Boisbouvier.
Oui, c'est à partir. Alors, vous avez, pendant les 3 premières années du quinquennat François Hollande, une volonté quand même d'appuyer les partis, les mouvements de la société civile qui se battent pour plus de démocratie et pour une alternance, pour empêcher les présidents de modifier leur constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat et pour en réalité devenir des présidents à vie. Donc vous avez l'exemple du Burkina Faso, hein, avec la chute de Blaise Compaoré, nous sommes en octobre 2014, qui a été d'une certaine façon accompagné par la France, par François Hollande.
Un peu au dernier moment.
Il a été habile, mais trois semaines avant, il a envoyé une lettre à Blaise Compaoré en lui disant, mon cher Blaise, si tu ne veux pas t'accrocher au pouvoir, je ferai tout ce que je peux pour que tu succèdes à Abdou Diouf à la tête de la francophonie. J'ai un fauteuil pour toi ailleurs. C'était une lettre confidentielle, évidemment, entre deux chefs d'État. Mais quand il a senti que le régime était en train de tomber, il a rendu publique cette lettre, vous voyez, pour être dans le vent d'histoire. C'est du François Hollande tout craché. Et puis les deux dernières années du quinquennat Hollande, alors là on sent en effet un retour à une réelle politique qu'on connaît bien sous tous les régimes de France depuis 1958. Il ferme les yeux sur un certain nombre de réélections d'autocrates qui ne veulent surtout pas quitter le pouvoir et dans des pays où il n'y a jamais d'alternance. Évidemment, leur succès. Alors vous avez cité le Tchad avec Idriss Déby, mais il y a aussi le Gabon avec Ali Bongo, il y a le Congo-Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso. Juste une anecdote à ce sujet. Nous sommes en octobre 2015. François Hollande et le président Ibeka du Mali donnent une conférence de presse à Paris sur les sujets France-Mali, etc. Et un confrère de RFI lui pose une question sur le Congo-Brazzaville. Le président Sassou est en train de vouloir changer de constitution par référendum pour pouvoir rester au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben, s'il a envie de le faire, qu'il le fasse, répond François Hollande. Et à ce moment-là, off, les conseillers Afrique de François Hollande s'arrachent les cheveux, parce que c'était pas du tout le discours qui était cohérent avec ce qu'il avait fait depuis 3 ans. Et en réalité, c'est quoi ? Ben, c'est que, en fait, il n'était pas au courant du dossier, il avait été pris de court par cette question, et le lendemain, il y a eu un communiqué de lui-même et de ses conseillers pour rectifier la position qu'il avait prise en public. C'est quoi le fond du problème, là ? C'est que François Hollande, en fait, avant 2012, il connaissait pas l'Afrique. Il s'y est mis parce que c'est son job. Quand on est président français, il faut s'intéresser à l'Afrique. Mais je pense que fondamentalement, il a jamais eu une empathie profonde pour l'Afrique. Il s'est jamais mis sur les dossiers africains avec passion, comme pouvait le faire un Mitterrand, un Chirac. Ce coup-là, il avait pas révisé, quoi.
François Hollande a été rattrapé par la Realpolitik, Aline Leboeuf.
Je pense que un des problèmes, c'est un problème de communication. C'est-à-dire que quand vous discutez avec les gens du quai, en fait, ils vous expliquent qu'en off, ils font des choses, ils essaient de défendre certains dossiers, notamment il y a pas mal de choses qui ont été faites sur les droits des gays, des homosexuels, des lesbiennes et puis des transsexuels en Afrique. Mais ces choses-là, en fait, elles sont pas visibles et il n'y a pas de volonté de les mettre en avant parce que ça peut avoir une incidence sur les dossiers aussi. Mais comme c'est pas visible, c'est très difficile de savoir exactement jusqu'où la France est capable d'aller pour défendre ces dossiers-là ou pas.
C'est vrai que Hollande, au début, promouvait la transparence, puis il est devenu plus discret. C'est sans grande déclaration qu'il a convaincu Paul Biya, le président camerounais, de s'engager enfin à combattre Boko Haram et qu'il a fait libérer l'opposant Thierry Michel Atanga au Cameroun. Est-ce que finalement Hollande a rallié l'opinion de ceux qui estiment que c'est faire preuve de naïveté que de refuser l'opacité et la diplomatie parallèle, Christophe Boisbouvier?
En fait, François Hollande, il a, je pense, combattu avec une certaine sincérité la France-Afrique mafieuse, c'est-à-dire la France-Afrique des émissaires, des réseaux, de la confiscation du public pour le privé, etc. Il n'y avait plus, à ma connaissance, ces dernières années, à l'Élysée, des visiteurs du soir, France-Africains, dans ce sens-là. Mais il est resté quand même très sensible à la pression des multinationales françaises qui travaillent notamment dans le golfe de Guinée. Un exemple tout simple, c'est le Gabon. Après la réélection hyper controversée d'Ali Bongo en août dernier, avec ces fameux tripatouillages électoraux, vous avez un François Fillon, par exemple, qui dit visiblement, Ali Bongo n'a pas été élu. Vous avez Louis Alliot, le vice-président du Front National, le numéro 3 du Front National, qui dit c'est une imposture, etc. Et vous avez François Hollande et Manuel Valls qui sont en retrait. François Hollande qui ne dit rien, personnellement, et Manuel Valls qui dit « je prends acte de la réélection d'Ali Bongo ».
François Hollande qui commence par demander quand même un recomptage des voix, mais qui est finalement, effectivement, entérine...
Qui s'abrite, en fait, derrière l'Union européenne et Bruxelles.
Le revirement de François Hollande qu'on vient d'évoquer n'a toutefois rien à voir avec celui de François Mitterrand dans les années 80. On va revenir un petit peu en arrière. En 1979, l'affaire des diamants de Bokassa éclate. La France apprend que le président Valéry Giscard d'Estaing aurait reçu des diamants de la part du dictateur centrafricain en échange de son soutien. François Mitterrand est élu 2 ans plus tard, en 81, sur une posture assez critique à l'égard de la France-Afrique et des régimes non démocratiques. Mais il effectue bientôt une volte-face assez spectaculaire, Christophe Boisbouvier.
Yeah. Oui, sous la pression de son vieux complice Houphouët-Boigny. Parce qu'à l'époque, Félix Houphouët-Boigny faisait la pluie et le beau temps dans la politique africaine de la France. C'est presque lui, Houphouët, le président de la Côte d'Ivoire, était quasiment le ministre de l'Afrique des différents chefs d'État français qui se succédaient à l'Élysée. Et au bout d'un an et demi, Houphouët a appelé Mitterrand, son vieil ami des années 50, hein, il se connaissait depuis la nuit des temps, en lui disant « ton ministre Jean-Pierre Cotte, là ça va pas ».
Aucun des présidents de la Ve République n'a véritablement remis en cause les réseaux occultes de la France-Afrique. L'homme qui a été le plus combatif et le plus intransigeant sur ce sujet, c'est Lionel Jospin qui promouvait ce slogan « ni ingérence, ni indifférence à l'égard du continent africain ».
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la France-Afrique, elle est morte plusieurs fois. Mais c'est un phénix en fait, il renaît de ses cendres. Mais sous une forme différente. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la politique africaine de la France, c'est comme un paquebot, un tanker. C'est extrêmement difficile de le faire tourner. Ça prend du temps. Et ça a été fait progressivement. Avec Jospin, il y a beaucoup de décisions qui sont prises qui sont très importantes, comme la fin du ministère de la Coopération, qui devient dépendant du ministère des Affaires étrangères. Jusque-là, le ministère de la Coopération, c'était un ministère de l'Afrique. Jospin va aussi refuser d'intervenir en RCA, en Centrafrique, et il va refuser d'intervenir en Côte d'Ivoire lors du coup d'État de 99. Donc ça, c'est des décisions fortes, en fait, qui vont faire bouger le tanker. Mais finalement, on a l'impression que ça bouge un peu vraiment avec Sarkozy, avec la fin de la cellule africaine, et que c'est Hollande, en fait, qui a cueilli les fruits de cette évolution en refusant, finalement, ce que disait M. Boisbouvier, de continuer une politique des réseaux mafieux.
Vous êtes d'accord, Christophe Boisbouvier, Hollande n'a fait que recueillir les fruits d'un travail qui était effectué déjà de longue date?
Oui, et j'ajouterais que dans le tanker, vous avez deux turbines qui sont... dont on parle pas toujours, mais qui sont fondamentales, c'est la turbine, c'est deux lobbies en fait. Hein. Vous avez le lobby des boîtes du CAC 40, hein, notamment Total, notamment Air France, Vinci, etc., qui ont des intérêts très forts en Afrique et pour qui il n'est pas question de se fâcher avec le président en place, que ce soit un autocrate ou un démocrate, les multinationales, elles s'en fichent. Hein. Et puis vous avez le lobby militaire. Vous avez une tradition militaire en Afrique hein, qui remonte aux conquêtes coloniales, mais qui remonte aussi évidemment à l'épopée de Leclerc avec la deuxième DB au Tchad et dans le sud de la Libye, qui fait que aujourd'hui encore, vous avez d'une certaine façon, via Jean-Yves Le Drian, un certain nombre de grands officiers français qui influent sur la politique de François Hollande et de ses prédécesseurs.
Ouais. Mais il faut se souvenir aussi que ça a un coût pour les militaires d'être présents en Afrique. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les premiers mois de Sangaris, il y a 10% plus de 10% en fait des militaires français qui ont été déployés, qui ont vécu des traumatismes, qui ont eu pour incidence des maladies psychiatriques et psychiques. Donc 10% en fait, 1 sur 10 des soldats qui ont été déployés est aujourd'hui un blessé de guerre, un blessé psychique. Et ça, en fait, c'est aussi important de se souvenir que ce sont des hommes qui, sur le terrain, en fait, conduisent la politique africaine de la France.
François Hollande a tout de même opéré une rupture par rapport à ses prédécesseurs. Ce ne sont pas des excuses officielles, mais le président a parlé de la dette que la France doit à l'Afrique. « Nous devions être là pour être à la hauteur de notre histoire », a déclaré Hollande à Tombouctou. Il a également reconnu les crimes commis par la France, en particulier la tuerie de Tiaroy au Sénégal. Un épisode très noir de la colonisation au cours duquel des dizaines de tirailleurs sénégalais ont été massacrés par l'armée coloniale en 1944. Aline Leboeuf, elle est là, la vraie rupture dans ses excuses. C'est quasi excuse de François Hollande.
C'est difficile en fait parce que on voit aujourd'hui avec les élections et là j'empiète sur un sujet qui est pas forcément le mien, mais que cette mémoire en fait de la colonisation, c'est aujourd'hui un enjeu de mémoire en fait pour les Français. C'est quelque chose qui divise beaucoup en fait, qui est clivant en fait dans la réalité politique actuelle. Je pense que vous aurez peut-être d'autres choses à rajouter.
Christophe Boisbouvier.
La ligne Hollande, c'est reconnaissance oui, repentance non. Hein, donc il reconnaît Tiaroy au Sénégal, il reconnaît les massacres de l'armée française au Cameroun avant et après l'indépendance, il les reconnaît à demi-mot. Hein, quand on écoute exactement ce qu'il a dit à Yaoundé, c'est pas si simple qu'en 2015, c'est pas si clair. Il reconnaît les massacres à Madagascar en 1947, mais pas d'excuses, pas de repentance. Hein. Et c'est un vrai sujet. Alors c'est intéressant que vous posiez la question aujourd'hui. C'est un vrai sujet de clivage aussi entre les candidats actuels à la présidentielle française, parce que vous avez un certain nombre. Non, en fait, quasiment la totalité des candidats sont pas sur cette ligne-là. Vous avez, pour faire simple, François Fillon et Marine Le Pen qui sont pour pas de repentance du tout, le roman national. Et vous avez Emmanuel Macron, alors qui lui est carrément pour la repentance,
puisque qui a créé la polémique en parlant de crimes contre l'humanité, absolument, des crimes de la colonisation. Aujourd'hui, il est difficile pour Paris de renouer avec les mouvements citoyens qui sont échaudés par le double discours de la France. C'est l'un des dossiers qui attend également le futur président, regagner la confiance des opposants africains, Christophe Boisbouvier.
Oui, notamment en Afrique centrale, parce que en Afrique de l'Ouest, il y a vraiment deux Afriques francophones aujourd'hui. Vous avez en Afrique de l'Ouest des pays où maintenant, à l'exception du Togo, où l'alternance est possible, et en Afrique centrale, c'est tout le contraire. Vous avez quasiment aucun pays où l'alternance soit possible. Et du coup, vous avez des mouvements citoyens en Afrique centrale, à Kinshasa, à Libreville, à Yaoundé, à N'Djamena et à Brazzaville, bien sûr, où vous avez une impatience très forte et une critique très forte contre François Hollande, à tel point, hein, que vous avez même des mouvements citoyens, des Congolais de France, par exemple, des gens du Congo-Brazzaville de France, qui se rapprochent du Front National et de son discours anti-Sassou Nguesso sur le thème « quand quelqu'un vous tend la main, quand vous vous noyez, quelqu'un vous tend la main, vous saisissez cette main ».
Un mot sur ces mouvements citoyens, Aline Leboeuf ?
Je pense qu'il est important que la France parle à tout le monde. Voilà. Alors après, forcément, on est dans des relations de politique réelle, entre guillemets, et forcément, l'interlocuteur principal de la France, ça reste le dirigeant du pays. Mais il est important aussi de laisser des portes ouvertes et de pouvoir accompagner des transitions au lieu de se nier la face et refuser de les voir.
Ce réengagement de la France en Afrique est aussi lié à la volonté d'aller chercher de nouvelles parts de marché sur le continent. On commençait à l'évoquer tout à l'heure. François Hollande et Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, ont fait de la diplomatie économique de la France une priorité. Face à la croissance africaine, la France voulait renforcer sa présence économique en Afrique anglophone et lusophone, notamment en Angola, en Éthiopie et au Nigeria. Et cet activisme permet à la France de décrocher un certain nombre de contrats. Mais alors, cela profite qu'aux grands groupes ou aussi aux PME, Aline Leboeuf ?
En fait, c'est... La diplomatie économique de la France, elle vise avant tout les PME, parce que finalement, les grands groupes, ils n'ont pas forcément besoin d'être soutenus par la France pour avoir des contrats. Mais le problème, en fait, c'est que ce n'est pas forcément facile à mettre en place.
Christophe Boisbouvier, sur cette question du retour de la présence,
c'est très
de
difficile.
Grande présence.
C'est très difficile, d'autant que vous avez une concurrence exacerbée. Par exemple, dans le domaine de la banque et de l'assurance, il y a un retrait depuis 20 ans, un retrait massif des banques et des assurances françaises d'Afrique de l'Ouest, remplacé par les Marocains, par trois grands groupes bancaires marocains qui peut-être sont plus adaptés au marché africain que les banques françaises. Donc c'est vraiment c'est un retour, une reconquête qui prendra des années.
À noter que effectivement François Hollande n'a toutefois pas réussi à enrayer le déclin de la présence économique française en Afrique. La part du marché de la France a diminué de 3 points entre 2005 et 2015, alors que celle de la Chine a augmenté de 11 points.
France Culture, Culture Monde, Tiffaine de Roquigny.
Venons-en maintenant à l'un des totems, si l'on peut dire, de la France-Afrique, le franc CFA. La question mobilise la société civile de pays africains francophones qui s'élève contre une monnaie considérée comme une permanence du colonialisme. Franc CFA signifie à l'origine franc des colonies françaises d'Afrique. C'est la monnaie imposée par l'ancien colonisateur et qui maintient, selon ses détracteurs, les pays de cette zone franc dans une dépendance à l'égard de la France. C'est en tout cas l'avis de Kémi Séba, militant panafricaniste, leader de l'ONG Urgence Panafricaine, qui organisé en janvier dernier une journée de mobilisation internationale de Dakar à Kinshasa en passant par Paris et Bruxelles contre le franc CFA.
Nous voulons, comme tout peuple digne sur cette terre, la souveraineté. On ne peut avoir de souveraineté sans contrôler sa propre monnaie. On ne peut avoir la propre maîtrise de sa destinée sans gérer notre propre économie. Il nous parle du fait que le franc CFA a des avantages plus que des inconvénients. Et à chaque fois que nous entendons cela, nous sourions. Durant la période de l'esclavage, le maître esclavagiste disait à ceux qui voulaient l'abolition de l'esclavage que vous avez plus d'avantages lorsque vous êtes esclave parce que vous pouvez manger matin, midi et soir. Vous avez la sécurité de l'emploi, vous avez la sécurité du domicile, vous avez la sécurité du toit. Alors que si vous connaissez l'abolition de l'esclavage, vous serez dans l'incertitude de votre destin. Et nous leur disons que nous préférons de très loin l'incertitude dans l'autodétermination que la certitude dans la soumission. Force et honneur, la patrie ou la mort, nous pas trop.
Kémy Séba, leader de l'ONG Urgence panafricaine. Je vous propose d'écouter maintenant Kako Nabukpo, qui est président de la francophonie économique et numérique au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, co-auteur de « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA ?». En fédéraliste convaincu, il insiste sur la nécessité de frapper une monnaie africaine, certes, mais aussi sur le fait que nulle unité monétaire ne peut exister sans unité politique. Cette monnaie ne réunissant pas ses critères, elle n'a donc plus de raison d'être, selon cet économiste de formation, Kako Nabukpo, que Clémence Salzar a rencontré hier dans son bureau de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris. Il s'exprime d'abord sur la mobilisation de la société civile contre le franc CFA.
Alors, je trouve que ce mouvement est très intéressant. Il traduit moins une connaissance pointue de la question monétaire qu'un désir d'émancipation de la part non seulement des Africains résidant en Afrique, mais de la diaspora africaine résidant en France.
Mais hormis donc certains économistes et des cercles militants, ce discours est-il audible ? Est-ce que les chefs d'État africains s'en emparent ? En 2015, par exemple, Kako Nabukpo, alors que vous êtes ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo, vous critiquez au sein même des appareils de décision que sont, par exemple, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, où vous avez officié par ailleurs au début des années 2000, je crois, l'existence de cette monnaie que vous qualifiez de servitude volontaire. Ce n'est d'ailleurs pas du goût des cadres de la BCEAO, puisque des documents en interne circulent et recommandent de vous rappeler à l'ordre. Alors le lien de causalité n'est pas forcément établi, mais vous ne serez d'ailleurs pas reconduit dans vos fonctions au sein du gouvernement togolais. Est-ce que ce discours est audible alors, selon vous ?
Ce qui me paraît très intéressant, et vous faites bien de rappeler cet épisode quand j'étais membre du gouvernement, c'est que j'étais ministre chargé de la prospective, mais aussi de l'évaluation des politiques publiques. Et donc, ça ne gênait personne que je puisse faire l'évaluation de la politique agricole du Togo, de la politique de santé, de la politique industrielle, de la politique budgétaire. Mais sur la monnaie, effectivement, il y avait comme une sorte de tabou. On ne pouvait pas évaluer l'efficacité de la politique monétaire. Or, convenez avec moi qu'elle a un impact sur le bien-être des populations togolaises. Et du coup, je me suis retrouvé dans une situation quand même singulière qui illustrait la persistance du tabou monétaire. Donc, il y a deux choses, à mon avis, intéressantes. La première chose, c'est la capacité pour les dirigeants à assumer les arrangements institutionnels qu'ils signent avec l'ancienne puissance colonisatrice. Je crois qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça. Il y a une sorte de pudeur à assumer le fait que l'ancienne puissance colonisatrice reste, in fine, l'élément central de la décision. Et la deuxième chose, c'est le contrôle citoyen de l'action publique. Il n'est pas non plus assumé. Et donc, je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument développer, que nos dirigeants assument les décisions qu'ils prennent ou qu'ils sont obligés de prendre. Et de l'autre côté, que les citoyens que nous sommes acceptent de prendre de leur temps, de leur énergie, prennent des risques, même par rapport à leurs fonctions, pour que l'intérêt général puisse prévaloir en tout temps.
C'est ainsi, c'est cette pudeur que vous décrivez qui explique, donc là je vous cite encore, ce silence assourdissant des élites organiques sur ce pan immédiat de la souveraineté des États. Ce silence assourdissant, par exemple, dont une autre preuve peut-être serait le fait, par exemple, qu'en septembre 2016 étaient réunis les ministres des Finances de la zone franc et que tout le monde réaffirmait finalement la volonté de se maintenir dans cette zone franc.
Oui, et c'est pour ça que le sous-titre de notre ouvrage, c'est « À qui profite le franc CFA ?». On se rend bien compte qu'en Afrique, il y a une lutte des classes qui n'est pas souvent explicitée. Avoir une monnaie rattachée à l'euro, ça offre des avantages. Ça incite à importer des biens et services en provenance de la zone euro. Ça incite à rapatrier des capitaux d'Afrique vers la zone euro. Ça permet d'entretenir une économie rentière qui profite finalement à une minorité urbaine les classes moyennes supérieures et les dirigeants. Donc, quand on pense que l'essentiel de la population africaine est quand même rurale, à 70%, et que l'essentiel des réserves de change qui nous permettent de garantir la parité entre le CFA et l'euro vient quand même du travail de ces paysans, producteurs de café, de cacao, de coton, on ne peut pas ne pas se poser la question finalement du caractère acceptable d'un tel arrangement qui traverse quand même 70 ans. C'est un objet institutionnel non identifié, cette persistance du CFA, parce qu'on se rend bien compte que ça a toujours été l'illustration d'une forme de domination, d'abord de la part du colonisateur par rapport aux indigènes, mais ensuite de la part des indigènes qui ont remplacé les colonisateurs par rapport aux autres parties de la population.
Mi-mars dernier, tout récemment, Alassane Ouattara, le président ivoirien, était en visite officielle à Paris, a rencontré François Hollande. Dans la foulée, l'Élysée publie un communiqué dans lequel François Hollande se disait, par rapport à ce franc CFA, ouvert à toutes les options. Comment comprendre cette déclaration, ouvert à toutes les options quant au franc CFA?
Oui, je crois que François Hollande reste cohérent, parce que n'oublions pas qu'en octobre 2012, à Dakar, il a prononcé un discours dans lequel il demandait aux chefs d'État africains de la zone franc d'utiliser les réserves de change détenues par ces pays auprès du Trésor français de manière beaucoup plus active pour créer la croissance et l'emploi dans leur pays. Donc, le fait de se dire ouvert à toutes les options, c'est de dire qu'effectivement, dans les situations de difficulté, la monnaie peut permettre de relancer l'activité économique et qu'il n'y a pas un complot français autour du CFA qui empêcherait les dirigeants africains d'assumer pleinement les prérogatives qui sont les leurs dans la gestion monétaire. Le défi, à mon avis, des prochaines années, c'est arriver à faire de la question monétaire une question réellement économique. S'il y a autant de passion autour du franc CFA, c'est parce que le franc CFA n'est pas une question économique, c'est une question politique. Parce que les 5 premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Éthiopie. Ensuite vient la Côte d'Ivoire. Et on voit qu'aucun de 5 pays ne parle ni le français, ni n'utilise le franc CFA. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir le franc CFA pour commercer avec la France. La question du CFA renvoie à la sphère politique, renvoie à la logique du précaré, qu'il y ait un territoire et des dirigeants qui utilisent ce que j'appelle la route de la servitude volontaire que constituent ces conseils des ministres de la zone franc qui n'ont aucune matérialité. On ne sait pas ce qui se dit là-bas, mais apparemment pas grand-chose, puisqu'on répète les mêmes erreurs. Et cette route de la servitude volontaire conduit ensuite ces ministres des Finances à Washington pour les assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Et donc, c'est pour ça que les sociétés civiles africaines se posent autant de questions. C'est parce que le CFA est une affaire politique. Et donc, si on veut une relation décomplexée, mais en même temps constructive entre la France et l'Afrique, il va falloir d'une part mettre une monnaie qui soit au service de la croissance et de la création d'emplois, et deux, défendre les valeurs que porte la France en matière de bonne gouvernance, en matière de promotion de l'intérêt général, et accepter finalement que chaque peuple, à un moment donné, puisse obtenir sa souveraineté et de manière libre conduire les populations ou sa destinée vers ce qu'on appelle une prospérité partagée.
Kako Nubukpo, ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo, au micro de Clémence Alzard. Entretien que vous pourrez retrouver sur la longueur sur le site de France Culture à la page de notre émission. Une réaction, Christophe Boisbouvier, sur cet aspect très politique du franc CFA?
Alors, côté français, il y a une gêne évidente. Vous avez déjà deux candidats, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui sont farouchement hostiles au franc CFA. Si je suis élu, je ferai disparaître cette monnaie, disent ces deux candidats-là. Chez François Fillon et Emmanuel Macron, il y a une gêne, un embarras. C'est-à-dire, c'est pas à nous de décider, disent ces deux candidats-là. C'est aux Africains de décider à notre place. Sous-entendu, c'est un fardeau colonial qu'on ne veut plus porter. Donc si les Africains veulent garder cette monnaie, qu'ils la gardent. Mais ce n'est pas nous qui les obligeons à les garder. Vous avez cette petite phrase de François Fillon. Le franc CFA ne rapporte rien à la France. Alors ça, c'est une discussion pour techniciens, mais il faudrait vérifier si en effet le fait que la moitié des réserves de change des pays CFA soient auprès du Trésor français, ça ne rapporte pas quand même un petit peu ou ça ne rapporte pas du tout. C'est une question pour techniciens. Voilà pour côté français, je dirais. Côté africain, alors de fait, vous avez un peu les riches contre les pauvres, comme dit Kako Nubukpo. C'est-à-dire que les riches veulent garder le CFA, les pauvres n'ont peut-être pas intérêt à le garder. Simplement, je pense que la décision de quitter le CFA ne peut venir que le jour où il y aura une monnaie de rechange. Hein, parce que le CFA apporte une certaine stabilité, que n'apporte pas toujours, par exemple, le Naira, la grande monnaie du Nigeria. Donc, ça ne peut marcher, le remplacement du franc CFA, s'il y a une monnaie commune à tous les pays de la CDAO, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, ou tous les pays de la zone CEMAC, de l'Afrique centrale. Et je pense que le mot de la fin, il reviendra au président de Côte d'Ivoire, quel qu'il soit, parce que la Côte d'Ivoire, c'est le poids lourd de l'Afrique de l'Ouest francophone. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara, par exemple. Et si demain, Ouattara dit le franc CFA, c'est fini, à ce moment-là, ça ira très vite.
À noter que la prochaine réunion des ministres des Finances de la zone franc aura lieu demain à Abidjan et que cette question du franc CFA, il sera sans nul doute centrale.
Avec Michel Sapin d'ailleurs.
Vous parliez tout à l'heure, à l'instant, Christophe Boisbouvier, du fait que Marine Le Pen milite pour la suppression du franc CFA. En cela, elle poursuit la rhétorique du chacun chez soi, afro-nationaliste, qui était déjà cher à son père.
Oui, en fait, tout vient d'une tribune de son père, Jean-Marie Le Pen, c'était dans le Figaro en janvier 2002, où il a théorisé les relations à venir entre la France et l'Afrique si jamais le Front National arrivait au pouvoir. Chacun chez soi, c'est-à-dire il faut que les migrants africains rentrent en Afrique. Et pour cela, évidemment, le Front National a développé tout le programme que vous savez.
Un mot de conclusion, Aline Leboeuf, sur cette politique africaine de la France qui a été menée par Hollande et sur les défis qui attendent le futur président.
Je pense qu'on n'a pas assez insisté sur le fait qu'aujourd'hui, la France a des ambitions pour sa politique étrangère qui sont très, très fortes, très, très grandes, et que ces ambitions, elles sont en décalage avec les capacités de la France. Et si demain, le président élu, en fait, veut continuer, en fait, à poursuivre une politique étrangère ambitieuse, notamment en Afrique, ça veut dire concrètement de sacrifier d'autres budgets pour renforcer celui du développement, le multiplier par deux, et renforcer le budget de la défense et arriver au fameux 2% en fait, du PIB dont on parle beaucoup aujourd'hui.
Christophe Boisbouvier, un mot de conclusion très très court, on arrive à la toute fin.
François Hollande a gardé la boutique, le rang de la France dans le monde et au Conseil de sécurité via Serval et Barkhane, ses opérations militaires en Afrique. Mais est-il allé au-delà? Qu'a-t-il fait de plus? C'est la question.
Et tout de suite, c'est le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Tiffaine.
L'idée d'une humanité commune à laquelle nous appartenons tous a été longue à faire son chemin. C'est ce que démontre l'essai d'un historien des idées néerlandais, Sjep Sturman. C'est un livre que critique cette semaine dans The Nation le philosophe Michael Walzer.
En effet, les sociétés antiques considéraient généralement leurs voisins comme des barbares. Et plus près de nous, le racisme qui a longtemps prospéré au sein même de notre modernité nous empêchait de voir en l'autre un semblable. Or, comme l'avait bien vu Tocqueville, lorsqu'on a assimilé le fait que l'humanité est une, qu'il n'y a pas de différence de nature entre maître et serviteur, aristocrate et roturier, se pose très vite la question des inégalités. Alors qu'elles paraissaient naturelles allant de soi dans le monde figé des castes, elles sont soudain ressenties comme des injustices. Alors autant Michael Walzer refuse la thèse selon laquelle l'idée d'une humanité commune serait l'objet d'une élaboration culturelle, qu'elle serait une construction sociale, autant il insiste sur le fait que les inégalités, elles, sont bien socialement construites. Mais de quoi parlons-nous quand nous parlons des inégalités ? Là encore, le philosophe aide à y voir clair qui distingue inégalité géographique, celle qui nous pousse à voir ceux qui vivent de l'autre côté de nos frontières comme des barbares ou comme des êtres inférieurs. Inégalité raciale, le cas de certaines ethnies qui se prétendent naturellement supérieures et destinées à dominer. Inégalité hiérarchique, maîtres et esclaves, castes supérieures et inférieures, etc. Inégalité économique, celle qui est le plus couramment véhiculée par le discours médiatique, les riches et les pauvres. Mais Sturman introduit, avec l'assentiment de Walzer, une cinquième inégalité. Celle par laquelle nous, les modernes, les avancés, nous nous distinguons d'eux, les arriérés, les prémodernes. En réalité, cette cinquième inégalité risque fort d'être déduite des quatre premières, dit Walzer. Car celle-ci implique l'idée que l'égalité complète, même si elle est pratiquement impossible à réaliser, doit demeurer le but visé, l'horizon de notre vie politique. Elle peut se muer en véritable sens d'une mission à accomplir par ceux qui sont les plus avancés sur la voie de l'égalité. L'idéologie colonisatrice s'est appuyée sur cette prétendue mission modernisatrice, émancipatrice et égalitariste. Il fallait aider les autres à nous rattraper. Michael Walzer parle à ce propos d'une inégalité temporelle, dans la mesure où elle sous-entend un évolutionnisme. Toutes les sociétés humaines seraient attendues sur des cases constituant autant d'étapes dans leur marche vers l'arrivée triomphale, la case égalité. Il y a malheureusement, écrit Michael Walzer, une version de gauche de cette inégalité temporelle, celle qui a nourri le mythe de l'avant-garde. Selon ce mythe, certains d'entre nous sont plus avancés, ils connaissent mieux les lois du développement historique, ils sont plus socialement conscients. En possession de la position idéologiquement correcte, ils se sentent investis de la mission d'éduquer les autres. Pire encore, lorsqu'ils triomphent politiquement avant d'avoir atteint leur objectif pédagogique de rééducation de la société, ils créent des régimes autoritaires brutaux censés rééduquer les masses aliénées. Je vous disais hier que Michael Walzer était un social-démocrate anti-autoritaire.
Hier, Brice, vous nous citiez trois des étapes capitales dans la marche de l'humanité vers la reconnaissance de son unité, vers ce sentiment que nous partageons tous aujourd'hui d'appartenir à une commune humanité. C'était la naissance de l'histoire avec Hérodote et Simachian, le récit de la colonisation des Amériques recueilli auprès des Aztèques au XVIe siècle, la lutte de certains anthropologues au XXe contre le racisme. Mais on semble passer un peu vite sur un autre moment capital, les Lumières.
Et oui, vous avez raison, Tiffaine. Et pour Sip Sturman, qui est un spécialiste reconnu de cette période, le 18e, il faut faire commencer les Lumières avec Descartes et les prolonger jusqu'à notre Déclaration des droits de l'homme. Les Lumières sont essentielles parce qu'elles marquent le moment d'une accélération dans la prise de conscience de l'unité du genre humain et de la marche vers l'égalité qui en est l'ombre portée. Comme le souligne Michael Walzer, ce sont les Lumières qui fraient la voie à une autre étape importante, l'internationalisme, qui se développe au siècle suivant, le 19e. Cette volonté d'entraîner l'humanité tout entière dans une lutte commune pour l'égalité constitue une autre révolution intellectuelle et politique. Michael Walzer, qui recommande chaudement la lecture du livre de Sip Sturman dont j'ai parlé depuis hier, lui reproche cependant de n'avoir pas consacré la place qu'il méritait au mouvement d'émancipation moderne, tels que le mouvement ouvrier, le féminisme, les mouvements pour les droits civiques. Aux yeux de Sturman, le combat abolitionniste contre l'esclavage qui se développe au siècle des Lumières pour triompher au XIXe était plus emblématique. Enfin, de manière plus générale, Walzer s'émerveille qu'un universitaire tel que Sturman, donc qui est néerlandais, puisse franchir avec une telle allégresse les frontières entre les disciplines universitaires. Et il appelle de ses voeux d'autres travaux d'érudition, offrant, comme le fait ce livre de Sturman, une vision panoramique. Il faut reconnaître qu'en ce moment se multiplie ce type de travaux multidisciplinaires et c'est une bonne nouvelle.
Merci beaucoup Brice Couturier. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à nos deux invités, Aline Leboeuf, chercheuse à l'IFRI, et Christophe Boisbouvier, journaliste à RFI et auteur de Hollande l'Africain. C'était à la découverte en 2015. Merci également à Kako Nubukpo, ancien ministre de la Prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo. Et merci bien sûr à toute l'équipe de Culture Monde, Clément Salzar, Samuel Bernard, Camille Imbert, Anne-Sophie Pierry, Alexandre Fougeron et à la technique.